Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones.
Un frais salé, c'est le cépage endémique de notre appellation.
Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue.
Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Jean-Pierre Robineau est une figure du vin naturel en France. Après avoir été un des pionniers des bars à vin de la capitale au milieu des années 80, il a choisi de rentrer au Sérail au début des années 2000. Un retour pour devenir vigneron sur les terroirs qui l'ont vu naître dans la vallée du Loir. Domaine les vignes de Langevin, Jean-Pierre Robineau, retour aux sources.
Bon, bonjour mes amis, approchez donc.
Salut Jean-Pierre, ça va?
Ça va très bien.
Bonjour.
Bonjour.
Noëlla, la patronne.
Bon, bah, merci de nous accueillir au débeauté comme ça, entre d'autres reportages dans ta région natale. Difficile de venir dans la région sans saluer Jean-Pierre Robineau.
Bah, peut-être, c'est vous qui le dites, bien sûr. On est l'historique des vins naturels, il ne faut pas l'oublier, à Paris en 1985.
Dès 85, on va en reparler évidemment, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Mais tes racines, elles sont ici.
Je suis venu ici.
Voilà. Né ici, dans ce village?
Ouais, je suis né à 2 km là, dans une maison, sans eau, sans électricité, sans salle de bain, sans chauffage. Il fallait aller chercher l'eau à 200 mètres dans une source où il y avait toutes les salamandres noires et jaunes, et on a bu de l'eau comme ça durant toute notre enfance. Et ma mère ici, parce que là c'était un ambulancier, enfin il faisait plein de choses, et ma mère lavait le linge à ces messieurs et dames ici au lavoir, parce qu'il y a un lavoir ici.
Juste à côté, dans le contrebas, voilà. quand on arrive.
Donc, exceptionnellement, ben voilà, j'ai pu récupérer cette maison il y a 20 ans.
Tu habites maintenant, c'est pas là où tu fais ton vin, mais tu y habites.
Voilà, c'est là où j'habite, c'est là où il y a les bureaux officiels de madame, voilà, qui gère tout.
Toi, tu es né ici, mais pourtant tu es parti à un moment, comme beaucoup, vers la capitale et vers d'autres cieux.
Ben, bien sûr, parce que moi, on était dans une famille quand même très pauvre. Mon père travaillait, mais il buvait beaucoup. Donc, je m'étais bien tenu toute ma vie de ne pas devenir alcoolique comme lui. Tout va bien jusqu'à maintenant. À 14 ans, moi, j'ai fait le premier métier. Je voulais absolument travailler parce qu'on ne pouvait pas suivre des études. Donc, à 14 ans, j'ai fait boulanger et pâtissier pendant 2 ans, à quelques kilomètres d'ici. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai compris que ce n'était pas mon métier parce qu'à juste de jeu, il fallait se lever à 3h du matin, 2h du matin, il y a un moment.
T'es peut-être un homme de la nuit, mais dans l'autre sens.
Mais plus tard, ça a été dicté beaucoup plus tard. Donc, j'ai arrêté au bout de 2 ans. J'ai fait du sport, j'ai fait des courses de vélo pendant à peine 2 ans. Et je suis monté à Paris à 17 ans, avec 500 francs dans la poche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que 500 francs, c'est 75 euros dans ma poche.
Donc c'est très peu.
Voilà. Mais à l'époque, 500 francs, c'était beaucoup d'argent. Pas comme aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que tu as fait comme premier métier, du coup, à Paris?
Le travail à Paris, j'avais trouvé sur un annonce, sur un journal. J'ai été travailler chez Citroën pendant presque un an que j'avais. Et j'étais logé à Sarcelles, dans un foyer où est-ce qu'on était 4.
On est assez loin du vin dans cet univers.
Ah bah, à 17 ans, on ne pensait pas à boire du vin. Quoique j'avais bu quelque chose qui m'a marqué. Avec les copains, j'avais 16 ans, on avait bu en 1947, on avait ouvert une bouteille par hasard, c'était beau. Et on a regardé ce bouchon de 1947. Et je me souviens de ces moments, on en a bu 2 bouteilles, mais on était déjà un peu popette, parce qu'à 16 ans, quand on ne boit jamais. Et voilà, ça c'est un grand, grand souvenir.
Et comment tu es arrivé justement au vin après tes débuts parisiens?
Eh bien, au début, bah, on ne buvait pas beaucoup. Et puis, bah, on est comme on était dans une région de vin. Quand je revenais ici, bah, je goûtais un petit peu le vin. Et puis, je me suis mis à goûter un petit peu de vin à Paris. Le déclencheur, c'est qu'à 22 ans, 23 ans, j'ai ouvert un livre sur le vin. Un livre de poche de Raymond Dumais. Je me souviens parce que je suis en train d'écrire un truc là. Raymond Dumais, j'ouvre ça. Qu'est-ce que c'est que ça, les crus classés, premier, deuxième cru, tout ça? Je ne savais pas du tout, j'étais ignorant de tout. Et puis Bourgogne, tout ça, et je vois Janière, Côte du Loir et tout ça. Et là, j'ai commencé à lire.
En fait, tu ne mesurais pas du tout que tu étais né dans une région où il y avait une histoire viticole très ancienne, et tu as découvert ça à Paris,
oui,
finalement.
Oui, bien sûr, à 17 ans, moi, je ne savais rien. Hein. Je ne savais même pas qui était Beethoven, Mozart, ou Modigliani, ou Johnson Pollock, ou Artaud. Je ne savais rien. du tout. Moi, je vivais dans les bois, hein, parce que dans la famille, c'était entre mon père, ma mère, on était six. Hein. Alors moi, je me sauvais pour pouvoir attendre toutes ces histoires, je me sauvais dans les bois, en permanence. Je connaissais tous les oiseaux et tout. Et puis quand je suis monté à Paris, ben, ça m'a manqué.
Les vignes, quand tu étais môme, tu en as des souvenirs, localement?
Non, alors les vignes, oui, oui, parce que...
De la vie de vigneron.
Oui, non, oui, bien sûr, parce que j'habitais à 2 kilomètres de l'école. Tout autour de nous, il n'y avait absolument que des vignes. Un cépage qui était mûr très tôt, le noir, c'était un blanc foncé. Il y avait quelques pieds à droite, à gauche. Le vigneron ne voyait jamais une grappe durant la vendange. On mangeait tout. Donc, évidemment, les vignes étaient... autour de nous, mais ça s'arrêtait là. À la suite de ce livre, là, j'ai dit qu'est-ce que c'est que...
Une révélation, ce bouquin, quoi.
Et la chose que j'ai vue, c'est que 3 mois après, il y avait une grande vente publique de Bordeaux. Il y avait une crise dans les 1970 sur Bordeaux. Et il y avait à Paris une grande dégustation et il y avait, je ne sais pas combien, 30 000 bouteilles à vendre. Et je vois Cheval Blanc 64, Pissologie 64. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, ah, voilà, on y va. On va goûter, ben, c'était sublime parce que c'était des trucs qui avaient déjà 7 ou 8 ans. 64, c'était juste avant la grosse chimie. Et on a trouvé ça sublime. Et puis on dit, ben, on va revenir à la vente demain. Et on a acheté nos premiers vins, Pissologieville 64 et Cheval Blanc 64. Et comme on s'est connu en 64, j'ai encore des Pissologieville Comtesse 64. Et on en boit une tous les ans. Il nous reste encore peut-être 12 heures. Et ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré un grand, grand journaliste qui était Michel Dovaz. Le renouveau du vin à Paris avec l'Académie du vin, avec Stéphane Purier à la Madeleine. Il commence à faire les premières dégustations de vin, les premiers écrits sur le vin. Et Michel Dovaz écrivait déjà les premiers livres. Tout de suite, il m'a dit, mais attends, Janière, mais je connais, il faut que tu me ramènes du Janière. Bon, j'ai ramené... de Janière, mais sulfité à mort, etc. Il me dit, oh là là, là, c'est quand même grave, 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 parce qu'ils sulfétaient tous. Ils ne savaient pas.
Oui, c'était la culture de l'époque.
C'était la culture. Donc, Michel Deval, on est devenu copain. Entre parenthèses, Michel Deval, on est devenu très amis, et il est décédé au mois de décembre à 95 ans. Il était grand reporter sur la RVF, la revue de Val-de-France. Grand, il était connu, hein, comme le loup blanc. Il était adorable, absolument adorable. Et lui, il nous a ouvert sa cave pendant 10 ans. Il avait une cave en province, du côté de Fontainebleau. Il y avait tous les crus, les côtes de Nuit, les côtes de Beaune, les trucs. Et il me disait, il avait 5-6 000 bouteilles. Il me dit, tu prends tout ce que tu veux, vas-y, goûte, goûte, goûte. On n'a pas arrêté de goûter avec Nola. C'est comme ça qu'on a découvert aussi tous les crus de Bourgogne, etc., etc.
C'est comme ça que tu t'es forgé une culture vin, en fait?
Ah oui, bien sûr, avec lui. D'abord, et puis tout de suite, il nous a emmenés à l'Académie du vin. On a assisté à plusieurs dégustations. Et puis après, ben, on allait à toutes les dégustations. Et tous les 15 jours, on allait chez lui. Et puis en plus, il était passionné par la cuisine. Il dit, l'art culinaire est trop grand pour manger 2 fois le même plat dans sa vie.
On est à quelle période quand tu découvres
1975.
Et là, le vin commence à sérieusement te taquiner.
Ah oui, mais oui, ça y est, j'étais déjà... parti. Hein. De là, on a goûté, puis on a connu Michel Bétagne, qui était l'élève de Michel Dovaz, aussi, qui était à l'Académie du vin. Et de ce fait-là, ben, on a fréquenté le vin avec Michel Bétagne et Michel Dovaz, et puis toute la clique. À cette époque-ci, j'étais plombier, parce que je suis resté qu'un an chez Citroën pour partir à l'armée, puis j'ai mis tout l'argent de côté pendant un an, parce que comme je ne savais rien faire, je me suis dit, ben, faut que j'apprenne quelque chose. Donc j'ai appris le métier de plombier chauffagiste.
Donc un plombier chauffagiste qui boit du Pichon Longueville et qui traîne avec des journalistes vin. Ouais. C'est pas mal comme concept.
C'est pas mal. Eh ben écoute, oui, oui, on a eu beaucoup de chance de rencontrer Michel Devas qui nous a fait plonger dans le vin. Puis en force de goûter, on allait dans les comment appellations.
Tu fais des rencontres forcément.
Je fais des comment rencontres. Et puis au bout de plusieurs années, on avait goûté tellement de choses avec Michel Bétagne, enfin avec Bruno Gentil et Chambrol. On s'est dit, tiens, on va monter une revue sur le vin.
Et cette revue
s'appelle Le Roger Blanc.
Une revue qui fête ses 40 ans, je crois, cette année.
40 ans cette année, et voilà. Donc c'est une revue sans publicité. Et le but, c'était de goûter tous les vignerons de chaque appellation. Donc chacun ramassé suivant les vacances ou les week-ends. De ce fait-là, ben, on a parcouru toutes les appellations, on a écrit sur toutes les appellations, on a goûté. Et à l'époque, c'était toujours des vins traditionnels. Bon, de ce fait-là, effectivement, ça nous a permis d'en prendre quand même le vin et au goûter tous les crus classés tous les ans.
Et le rouge et le blanc, ça a été important dans ton histoire ?
Le rouge et blanc m'a permis surtout d'aller beaucoup plus loin dans le vin, puisqu'on goûtait toutes les grandes appellations. Chacun écrivait un article sur l'appellation. Avec Noëlla, on écrivait. Puis moi, je fais les mises en page pendant pratiquement 10 ans, passer des nuits entières.
Oui, ouais. Non, on mesure pas aujourd'hui les... Ouais. Les abonnés du Rouge et le Blanc peuvent avoir accès au premier numéro. Hein. Ils sont tous en ligne maintenant. Donc on remonte au numéro 1 comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, sans faire un jeu à ton travail, il y avait un côté un peu feuille paroissiale quelque part.
Oui, parce que...
On faisait avec les moyens du bord, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça. C'était,
Oui, et puis moi, je faisais ça après mon boulot. Donc moi, je mettais plusieurs jours dans l'appartement à Paris. Je découpais tout, tout était par terre, tout ça. Tout. Alors maintenant, tout a changé, tout est... informatisé. C'est un beau souvenir. De toute manière, moi, je regrette en principe jamais rien dans ma vie. Si j'ai fait une bêtise, je me dis, tu seras meilleur la prochaine fois. Si tu commences à dire si j'avais su, évidemment, on peut toujours être meilleur.
Et puis alors, donc, le rouge et le blanc, c'est 83, le début. Et puis, quelques années plus tard, tu changes de cap.
Eh oui, parce qu'effectivement, je change de cap. J'étais toujours plombier, puis au bout de 20 ans de plomberie, bâtiment, tous les jours. Mais bon, j'étais tranquille, parce qu'on était à Trappes, à Maurepas. On avait construit toute la ville nouvelle, hein, tous les pavillons. Et moi, j'étais reconstruisé, donc on est tout seul dans un pavillon. Moi, j'écoutais France Culture, France Musique toute la journée à fond l'opéra. Personne ne me cassait les pieds. Ils me prenaient tous pour un cinglé. Mais personne ne me cassait les pieds. Alors je mettais l'opéra à fond. Voilà, donc je suis resté là, plombier pendant un certain temps, pendant 18 ans. Puis au bout de 18 ans, j'ai dit, oh là, je commence à m'ennuyer parce qu'ils m'emmenaient ailleurs et puis je ne pouvais plus écouter France Musique ou France Culture. Et mes copains avaient monté leur premier bar à vin. Parce que c'était le renouveau des nouveaux bar à vin.
Donc là, on est au milieu des années 80.
Hein. 85. Évidemment, on se connaît tous. Le premier, c'était Bernard Potonnier, mon café de la nouvelle mairie. Il avait un tout petit bistrot. Et là, lui, il avait une connaissance du vin aussi de toute la Loire. Donc, on y allait souvent. Et puis après, ben, ça a été le premier. Après, il y a eu les autres. Ils étaient 4 ou 5. Après, il y a eu François Morel, la cave des camps en Vierge, qui a monté.
Du côté de Belleville.
Du côté de Belleville, là-haut. Et après, je crois que c'est Passavant, Bernard Passavant, qui a monté le Passavant, rue Gaucourt. Et ensuite, ça a été le Baratin, Olivier Camus, qui a monté le Baratin rue Jouve-Rouve, c'est ça.
Voilà. Du côté de Belleville aussi.
Du côté de Belleville. Évidemment, comme on était tous copains, on allait tous manger chez les uns, chez les autres, etc. Et puis, je crois qu'il y avait aussi Luc Desroussons qui a monté à Montparnasse les chansons. J'ai failli partir avec lui, mais je dis, attends, chacun sa merde, chacun son bonheur.
Et toi, tu te dis un jour, j'ai envie de voler de mes propres ailes aussi dans cet univers ?
Oui, non, mais à force d'être dans cet univers-là, et puis le bâtiment, ça commençait à me casser les pieds. Et je dis à Noëlla, à mon épouse, je dis, je monte à bar à vin parce que le bâtiment, c'est bon.
Qu'est-ce qu'elle en pense, ta femme, à cette époque ?
Non, mais quand même, t'es passionné par le vin aussi, comme moi. Donc, c'était une nouvelle vie. Hein. Au lieu de partir à 5h30, 6h tous les matins, ça ne m'empêche pas de me coucher tard le soir. Mais voilà, on a mis de l'argent de côté pour 3 ans, parce qu'on était au tout, je ne sais pas beaucoup, on était smicard, ou presque, enfin moi. Non, là, j'étais travaillé à la Caisse des dépôts et aux consignations à l'époque, à côté de la gare d'Orsay, maintenant, fait du musée, maintenant.
Voilà. Et donc, vous vous lancez comme ça tous les deux ?
Ah non, tout seul.
Enfin, toi tout seul ?
Ah ouais. Non, la garde de son boulot, elle, parce que c'est elle qui ramène la paye. Non, je suis tout seul, elle n'a jamais travaillé avec moi que pour dépanner. Elle a gardé son travail et elle faisait toute la gestion. Les comptes de paye, les feuilles de paye, etc. Et on monte en 88 le premier. La belle histoire, c'est que...
Comment il s'appelle ton restaurant, pour ceux qui ne connaissent pas ?
Non, on a fini par trouver un nom après avoir... On en a cherché une centaine, puis on a terminé sur Langevin. Langevin, parce que j'étais passionné par tous les vins d'Anjou, mais on a séparé le mot pour ne pas nommer les gens... d'Anjou, donc c'est l'Ange du vin.
Alors dans quel quartier de Paris du coup ?
Ben, je voulais pas rester dans mon quartier, dans le 11e, parce qu'on était dans le 11e depuis l'âge de 17 ans. J'ai tout cherché ailleurs. Puis finalement, je suis revenu dans le 11e, à côté de la salle Japy, la rue Richard Lenoir, la fameuse salle Japy construite par Eiffel.
Changement de cap, changement de regard sur le vin peut-être un
oui,
peu.
Oui, mais comme je suis autodidacte partout, donc j'ai toujours appris un métier en faisant autre chose. Donc mes copains m'ont dit, puisque tu es monté un bistrot, tu viens nous aider. Le vendredi, le samedi, bah, j'allais deux jours là, un jour là, me faire la main pour servir derrière le bar et tout. Mais la première fois que j'étais derrière le bar, j'ai tremblé pendant une heure. Et non, tu te mets derrière le bar, tu n'as jamais été derrière le bar. Donc au bout de trois ans, j'ai ouvert le bistrot comme si j'avais toujours fait le métier.
Quel type de vin
ah oui.
on boit à Langevin au milieu des années 80
ben, on avait à peu près, dans les 5 bars à vin, on avait à peu près tous les mêmes vins. Moi, j'en avais plus un peu d'Anjou parce que j'y allais souvent. On avait les Côtes-du-Rhône, de Carène-Couturier, de Cynard, etc., etc. Moi, j'étais passionné par les moelleux, donc j'avais essayé de trouver tous les moelleux de la Loire ainsi que des Vouvray. Mais j'avais beaucoup d'Anjou rouge. Des Bourgueil, des Chinon, voilà, beaucoup de vins de Loire et des Languedoc-Roussillon.
Et le vin naturel en tout ça
et il n'existait pas.
Et c'est ça qui est fabuleux.
Ah oui, non, oui, oui. Non, non, mais on avait quand même découvert des choses bien. Par exemple, Marlène Soria, quand elle était encore institutrice, là, ou prof, là, elle est venue aux caves particulières. On goûte à ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle faisait 10 hectares, puis elle vendait une misère. Mais je dis, Marianne, tu ne pourras jamais vivre avec ça. Donc, on en a servi au bistrot, on les achetait par 240 à nous, à des prix déviants, tout qui compte, les 91, les 90, les 89, 88, et j'ai encore des 91. Marie-Hélène, elle est venue coucher un jour à la maison ou deux fois, on lui a dit, je lui ai dit, mais il faut que tu changes tes prix, parce que sinon tu ne pourras jamais vivre. Elle a compris.
Sinon, on pourrait lui dire dans l'autre sens.
Oui, ouais, mais bon, ces vins sont comme ça, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. La vie continue, le bistrot continue, et puis un jour...
Il faut quand même mesurer qu'on est dans, on peut le dire, dans les premiers bars à vin de la capitale.
Ah non, mais on est les premiers, on est le renouveau des nouveaux bars à vin de la capitale.
Il y avait, c'est bien pour ça que je précise.
Voilà, il y avait les anciens qui étaient là, hein, comme Quempa, rue du Pont-Neuf, et puis il y avait les Fers Fabre aussi, qui étaient quand même de notre génération, mais qui étaient un petit peu, ils étaient dans le vin, hein, parce qu'il y avait des manquis, enfin, eux faisaient partir de notre génération, mais ne faisaient pas... partir de cette pensée, parce qu'ils bouchaient encore, ils faisaient venir des barriques et ils bouchaient. Nous, on achetait tout en bouteille, bien sûr. Un jour, Bernard Potonnier, deux ans après, il me fait goûter une bouteille à l'aveugle. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est bon? Je lui dis, moi, Côte de Nuit, Bourgogne. Il me dit, non, Gamay Beaujolais de Marcel Lapierre.
Ah ah.
Vin sans sulfite, sans aucun électron. Et là, on...
Tu te prends une claque?
J'ai pris une claque, mais lui aussi, parce qu'il ne connaissait pas. Personne ne connaissait. D'ailleurs, je ne sais même pas comment cette bouteille, qu'il faudrait que je lui demande comment cette bouteille est arrivée.
Elle s'est retrouvée en face de vous.
Et puis, de ce fait-là, 15 jours après, les 5 bistrots partent chez lui. Hein.
Donc, toute la bande que tu évoquais tout à l'heure, oui, oui. Les Morel, Pontonnier.
On partait tous. Hein, on partait des fois à 15, chez Sina ou chez les autres. On mangeait au moment des truffes, là, au printemps, là. Chez Cynard, là, dans les Côtes-du-Rhône, à côté de chez Carène-Couturier, on a mangé des truffes par kilo, par kilo, kilo des kilos. Cette fois-ci, on part chez Marcel Lapierre, et là, ça a été le déclic, parce qu'il...
Révélation.
Ouais, il nous a emmené, évidemment, chez tous les autres, hein, petit Max Breton, Foyard, Thévenet, j'en oublie, ils étaient 5 ou 6, le chat, et là, ça a été une salle. Mais moi, il m'a fallu 2 ans pour que je saisisse. Je le dis, franchement, 2 ans pour qu'un déclic se passe, alors qu'on achetait plein, on en buvait, mais le déclic dans la tête est un jour. Je dis, mais comment ça se fait que tu n'as pas saisi carrément le vivant de ce vin? J'ai eu le déclic ce jour-là.
Qu'est-ce qui bloquait? Ton référentiel du moment?
C'est pas facile parce que nous, on avait goûté évidemment comme tous les autres, à tous les vins traditionnels. Et puis pour saisir la matière du vin, c'est comme tous ceux qui connaissent pas le vin aujourd'hui, naturel à 100%, ou qui connaissent mais qui n'ont pas toutes les références dans la tête, ils peuvent se dire oui, mais là, ce vin-là est comme ça, celui-là, il peut critiquer, il y a un petit défaut ou pas de défaut. Mais saisir le vin naturel dans la bouche, c'est comprendre la verticalité de l'eau, la pureté les sauces. Et là, quand tu as tout saisi ça, tu dis là, ça y est. Mais on a servi les premiers vins naturels, puisqu'on était les 5 bars vins à Paris. On a été les premiers, on était pris pour des calémentons. Hein.
Comment vos clients de l'époque abordent ce nouveau regard sur le vin?
Certains ne comprennent pas. Certains disent, mais c'est pas du vin. Mais d'autres disent, mais qu'est-ce que c'est que ce vin? Et il y en a beaucoup qui nous disaient, chez nous, ben, comme c'était tous des clients fidèles, qui me disaient toujours, vous me servez tout ce que vous voulez, sauf du Beaujolais. Ben oui, parce qu'il y avait une mauvaise réputation. Hein. J'ai dit, ok, mais il n'y a pas de problème. Donc, carafe, Beaujolais de Massal-le-Pierre ou Pierre Max Breton ou Foyard, à l'aveugle, ils disaient, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est? Ramenez une deuxième bouteille, vous verrez après. Et au moment de payer, je me dis, c'est du Beaujolais. Ça, c'est une belle histoire.
Donc là, changement de regard dans ton bar à vin, évidemment, j'imagine que dans le prolongement de tout ça, tu vas changer quand même beaucoup de vin que dans ton bistrot.
Ben, c'est-à-dire que là, maintenant, on sert tous ceux qui faisaient du vin nature sans sulfite, les 5 ou 6 dans le Beaujolais, parce qu'il ne faut pas oublier, quand ça démarrait, tout était vinifié par Jacques Nauport. C'est Jacques Nauport qui vinifiait chez Massal-le-Pierre, chez Foyard, chez les autres. C'était l'élève, le grand élève de Jules Sauvé. Mm-hmm. Et après, Philippe Pacalet est le neveu de Massal-le-Pierre.
Oui, dans un second temps, on va dire. Oui,
mais il a appris aussi avec Jules Sauvé chez lui. Hein. Mm-hmm. Jules Sauvé, il y a une anecdote qui est précise, quand il allait travailler dans ses livres, Philippe Pacalet, il balayait les feuilles des arbres par terre. Jules Sauvé arrive, il dit, mais t'es fou toi, c'est moi qui vais balayer. Toi, tu vas dans la bibliothèque et tu vas lire ce que j'ai écrit.
La classe.
La classe, hein. Donc évidemment, on servait, puis il y avait aussi Pierre Vernois. Donc dans le Jura, on avait tout ce que vous voulez. Pierre venait au bistrot, on avait tous les gens que vous voulez, tous les pupillets, tous les arboiles, tous les poussins.
Notre époque.
Ouais, ouais, ouais.
Et la Loire dans tout ça?
La Loire, je continuais à servir des Anjou rouges ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui travaillait. Quelques-uns étaient en bureau, mais ça ne bougeait pas encore. Hein. Ici, il y en a quelqu'un qui travaillait très bien, qui n'avait jamais mis de sulfite de sa vie. On le connaissait de loin, mais on n'avait jamais été le voir. C'était M. Hacquet, avec les sœurs Hacquet. À Saint-Lambert-de-la-Terre, 1950, hein, en agriculture biologique, jamais mis un gramme de sulfite de sa vie. C'était certainement un des premiers de France inconnus.
Et donc derrière, de fil en aiguille, bah, tu suis l'évolution de tout ce mouvement. Tu continues à aller dans les vignes,
On partait tous les 15 jours, on était dans les vignes. Et puis dans les Beaujolais nouveaux, à l'époque, c'était quand même, c'était envoûtant. À l'époque, parce que c'était quelque chose de fou. On allait chez Massal-le-Pierre pour les Beaujolais nouveaux. Ils nous servaient des Beaujolais à 9 degrés ou 9,5, non sulfités, non filtrés. C'était une beauté parce que la bouteille, tu la buvais en 5 minutes tellement que c'était fantastique.
Je vois le genre. J'ai déjà eu ce genre d'expérience. Ouais. Ton bar à vin, tu le gardes combien de temps?
Celui-ci, j'avais cherché pendant 3 ans un lieu parce que je ne voulais pas passer par... un professionnel, parce que ça coûtait trop cher, j'avais pas d'argent. J'ai cherché, puis là je tombe sur la salle Japy, là, dans l'angle, dans la rue Richelieu-Noir. C'est des Portugais qui étaient là depuis une trentaine d'années. Je rentre, je dis, est-ce que vous voulez vendre votre bistrot? Elle me dit, oui, si vous me donnez ce qu'il faut, je vous le vends. Et c'était joli parce que c'était un angle, c'était le bistrot avec des tables. Et j'ai encore 2 tables, mais j'ai encore plein de tables. J'ai des tables de 1900 où il y a marqué Fauderie de la Bastille.
La classe.
Ouais, ouais. Puis après, j'ai récupéré plein de vieux pieds de 1900 et j'ai fait mon bistrot comme ça. Quand j'ai visité la cave était bien encore. Mais après, j'étais dans le vide sanitaire. Alors, le vide sanitaire, c'était quelque chose de dur. Il y a les piliers qui s'écroulaient un peu dans tout le sens. Il y avait de l'eau qui coulait. Mais c'était dans les vides, hein, c'est-à-dire au-dessous des caves. Moi, j'ai dit tant pis. Je prends, ça fait 3 ans que je cherche.
Et tu y restais combien de temps du coup là-bas?
5 ou 6 ans. À l'ouverture, ça a été de la folie, on est resté jusqu'à 6 heures du matin. Il y avait François, les garçons bouchers.
François Gilataro, qui est décédé l'année dernière d'ailleurs.
Notre grand copain passionné par le vin. Un jour, il était à l'Olympia, il m'appelle, Il nous sort de la pierre, on est 50, à ce que on vient chez toi pour me découper. J'ai dit, je suis plein, je suis archi plein. Mais il dit, c'est pas grave, on arrive. Ils sont venus avec 50.
À 50 dans ton bistrot.
Oui, mais bon, ils ont resté à moitié dehors, ils étaient tous dehors. Il me dit, t'inquiète pas, serre les bouteilles et tu marques. Serre, serre, serre. Et puis quand il était prêt à partir, il me dit, donne-moi la liste. Il est revenu avec l'argent. Ben, ça, c'est bon, hein. Ah, notre François, ouais. Donc, effectivement, les journalistes nous ont beaucoup aidés parce qu'au début, ils nous écrivaient. Hein, ils écrivaient tous les 15 jours, 3 semaines sur nos 5 ou 6 pistons. Donc, on était toujours plein, toujours plein.
Et c'était eux. Ça cartonnait, quoi.
Ah, bah oui, puis c'était eux qui ont promotionné un peu le vin nature. Puis tu dis, oh là là, vin naturel, sans sulfite. Alors, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas. Donc, les autres bistrots venaient goûter, même les grands chefs venaient goûter, etc. etc. Le vin naturel est bien parti de Paris, comme toute grande forme de culture, comme la peinture, comme nos autres formes. Hein. Parce que nous, si on n'avait pas vendu leur vin, je ne sais pas.
L'histoire se serait peut-être arrêtée.
Oui, c'est personne, parce que ça partait en autolyse. L'autolyse, c'est le côté viandé, cuir de soie, mais nous, on aimait ça. On aimait, mais quand tu le faisais goûter ça aux gens, on dit, bah, c'est pas bon. Moi, l'autolyse, j'adore ça. Alors, effectivement, après, Marcel Lapierre avait compris que c'était mieux de faire l'autolyse en barrique qu'en bouteille. Donc, il y avait moins d'autolyse.
Et tu resteras bistrotier combien de temps, du coup, à Paris ?
Eh bien là, au bout de 5 ou 6 ans, l'immeuble est à vendre et la ville de Paris préempte. Heureusement, parce que l'autre qui avait déjà acheté, il arrive, il dit, c'est moi le nouveau propriétaire, je vous donne, par exemple, 30 000 euros. Je l'avais acheté à 70 000, 80 000. Et lui, il me dit, vous m'emmenez tous vos papiers demain, je vous l'achète 30 000 euros. Enfin, 30 000 francs. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, c'est la ville de Paris qui a préempté, puisqu'il y avait la salle Jean-Pierre à côté. Mmh. Donc, ils ont reconstruit, pareil, 2 étages, en briques, avec l'angle et tout. Mais là, je me suis battu pendant 2 ans avec la ville de Paris.
Pour rester?
Non, pour être indemnisé, pour être exproprié avec, puisque on est censé être exproprié par rapport à ton chiffre d'affaires. Donc il disait n'importe quoi. Donc moi j'ai pris un expert privé, etc. Donc
pas te faire avoir.
Pas te faire avoir. Et donc ils ont été extrêmement sympathiques parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a bien conseillé. Ils m'ont payé le futur cocktail du futur bistrot. Donc je m'en suis bien sorti.
J'étais reparti sur une nouvelle aventure.
Voilà. Et après, 2 ans après, j'ai trouvé un autre bistrot qu'on a toujours appelé Langevin, rue Montmartre, au 168. Et là, c'était plus grand. Il y avait 120 places, mais 60 en bas et 60 en mezzanine, comme un théâtre 1900. C'était beau, c'était trop. Mais là, on a tout refait à neuf. Tout. Ben, comme on avait de l'argent, on a fait les mosaïques au sol, etc. Et, tout, voilà. Et puis, ben, l'ouverture, il y a eu un monde de fous pour l'ouverture. Ça dura encore 6-7 ans. Et chose extraordinaire, je crois qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui a fait ça à Paris. Dans le premier bistrot, quand j'étais exproprié, j'ai fait une fête pour la fermeture qui était aussi grande que l'ouverture. Toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Et dans le deuxième, quand je suis parti en 2001, parce que j'ai dit à tous mes clients, je pars, je vends, je retourne à la campagne faire du vin. J'ai dit, cette fois-ci, on a fait un coup de maître parce que j'ai écrit à tous mes clients, il y avait 120 places. J'ai dit, il y a trop de monde qui veulent venir manger pour le dernier Beaujolais. Vous me dites si vous restez 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Il faut jouer le jeu. Ils ont tous joué le jeu. On a fait 320 repas le jour du Beaujolais et on a vendu 600 bouteilles en presque 24 heures.
Et donc l'histoire s'arrête en 2001 par lassitude ou par
pas du tout, parce que
envie de renouer avec tes racines peut-être.
Noala pouvait partir, pouvait quitter son travail 2-3 ans plus tôt. Mais je lui dis, mais on va pas rester à Paris, qu'est-ce qu'on va faire si toi t'es à la retraite? Il dit, moi je vends et retourne à la campagne. Elle me dit, bon ok. Elle me dit, moi l'hiver je reviendrai à Paris, puis toi tu resteras dans tes vignes. Mais finalement, elle préfère rester là que de remonter à Paris. Et on a fait la fermeture aussi. J'ai invité tous les copains. Il y avait François Lazaro, tous mes copains, mes plus gros copains. Je dis, vous descendez à la cave, vous buvez tout ce que vous voulez. C'est pas beau ça?
Oui, c'était un joli clap de fin.
Oui, voilà, non, ça s'est bien passé. Et puis en 2009, voilà, on déménage et je fais ma première cuvée en 2002. Enfin, en 2009, j'ai fait 2 barriques. C'est...
Ça te taquinait depuis longtemps, l'idée de revenir chez toi?
Non.
L'idée d'être vigneron, c'est un concours de circonstances?
Non, mais retour à la campagne, parce que je voulais revivre toute cette campagne que j'avais vécue, tu vois, les oiseaux, la campagne, mes forêts et tout. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas retourner plombier. Je sais rien faire. Je vais faire du vin. Avec ce que j'ai, je devrais y arriver. Donc j'ai dit, voilà, je vais faire du vin. Alors, j'ai tout de suite acheté, pendant 2 ans, je me suis débrouillé avec le cadastre, j'ai acheté 10 hectares. Par petits morceaux, à 10 heures là, 10 heures là, 10 heures là.
Dans les coteaux du Loir et sur Janière ?
Coteaux du Loir et Janière, puis à Chaigne, tous les anciens me connaissaient. Donc ils m'ont vendu 10 heures là, 10 heures là, 10 heures là. J'ai réuni 4-5 hectares, 5-6 hectares sur Chaigne, et puis j'ai acheté un petit peu sur Janière.
Sauf qu'il y a 22 ans,
ouais.
Janière, coteaux du Loir. On regarde peut-être pas forcément ces deux petites appellations d'un œil enthousiaste.
Oui, oui, c'était...
Elles ont failli disparaître, objectivement.
Oui, ça a failli disparaître dans les années 70. Mais bon, il y avait Eric Nicolas qui, lui, était là déjà. Donc, lui, il vendait sur Paris, il était déjà présent. Donc là, j'ai dit, bon, où est-ce qu'on va à Janière? Moi, je voulais aller aussi en Ardèche, du côté de Uzès, dans les montagnes, la vallée de Vence, je ne sais pas comment là, où tout est abandonné. Tous les cirques s'étaient plantés. Tous comme Contrôti, Cornas, et c'est toujours en friche. Hein. Mais bon, c'est en pleine montagne. Et puis je me suis dit, retourne chez toi. Tu as de l'or sous le pied. Tu sais que c'est un grand terroir. J'en ai un Côte de l'or, retourne chez toi. Tu ne connais personne là-bas. Ici, tu connais tout le monde. Retourne là-bas, ce sera mieux.
Et donc, tu reviens comme vigneron cette fois,
voilà.
Nouvelle casquette, sur ta terre natale, avec la fougue, j'imagine, d'un adolescent qui démarre une nouvelle aventure.
Et oui, j'ai eu de la chance d'avoir un petit peu de vigne tout de suite. Donc, la première année, j'ai dû faire, je sais pas, 3 000 bouteilles. Ben, pour vinifier, évidemment, t'as beau avoir lu tous les livres pendant 20 ans écrits partout, mais quand t'es face à la matière...
La réalité te rattrape.
Oui, surtout j'étais en bio, moi je faisais rien, hein. je ne levurais pas, et j'appelais Philippe Acalé tous les 3-4 jours, parce que c'était mon copain, et donc il me donnait plein de conseils, et puis il me disait après, mais tout ce que je te dis c'est bien, mais il faut que tu sentes un peu le truc, que tu goûtes, que tu sentes ce que tu dois faire, parce que sinon moi je te dis ça, mais bon, après... Il y a la sensation des éléments que tu dois ressentir. Puis le premier millésime, ça s'est bien passé. Mes copains disaient, moi, c'est la sauce du premier millésime. J'ai dit, il se passe des petits salopards, les copains. Et le deuxième, alors, je vais faire du vinaigre. Non, mais ça s'est bien passé, le deuxième aussi. Puis voilà, puis j'ai planté. J'ai planté 4 hectares sur Chaigne, alors que je n'avais jamais rien planté de ma vie. Je n'avais jamais monté sur un tracteur.
Où est-ce que tu t'amuses le plus, que tu... T'épanouis le plus? Est-ce que c'était dans tes différentes vies, dans celle de vigneron, dans celle de bistrotier, même dans celle de plombier, hein, y a rien de méprisant à être plombier, mais où est-ce que tu t'éclates le plus objectivement?
Non, moi je ne regrette rien. Moi, ce que j'ai vécu, moi j'ai vécu des belles choses, puisque je suis un créateur, donc je suis positif. J'ai fait beaucoup de sport. On allait faire du sport avec nous là tous les dimanches matin, tennis, football. Et puis moi, j'ai monté toute l'école de France en vélo, j'ai couru, j'ai fait 400, 3000 marathons, etc. Donc on était dans une activité toujours positive. Donc je me suis éclaté partout où j'étais. Dans le bistrot, je me suis bien éclaté parce que c'est quand même une vie, tu rencontres tellement de gens et puis tu fais plaisir aux clients. Les clients, ils revenaient tous, c'était tous des gens fidèles. Et donc, je m'éclatais partout. Et ici, là, quand tu reviens ici, bah, tu as un but, donc c'est le bonheur. C'est-à-dire, tu fais quelque chose qui te passionne, qui te prend au cœur. Donc, qu'est-ce que tu veux de mieux? Rien. Parce que tu vis tes passions et tu vis les métiers que tu aimes. C'est assez rare de pouvoir vivre avec, tu vois.
T'as vu l'évolution aussi de ces deux appellations, ces deux vignobles Janière, Coteau du Loir, là, en 22 ans, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'installations, beaucoup de jeunes qui partagent ton regard pour certains.
Oui, bien sûr, quand je suis arrivé, bah, évidemment, comme c'était pas facile quand t'as jamais fait de vigne, j'avais l'herbe qui faisait 1 mètre de haut dans mes vignes. Les collègues me disaient, tu regardes, tu vois, tes vignes, elles sont vraiment sales. Hein. Et je dis, je pense pas qu'elles soient sales. Les miennes, elles sont magnifiques. Regarde les tiennes. Elles sont plus désertes que le désert. Il n'y a rien qui vit chez toi. Alors que moi, regarde. il y a plein de fleurs chez moi. Quand je serai prêt, quand j'arriverai à maîtriser tout, je pourrai faucher, etc. Effectivement, il y avait Eric Nicolas qui était là. Moi, je suis
Balivière.
En bio, Balivière. Après, il s'est mis en bio. Après, il y a eu les autres. Après, il y a tous les autres qui ont suivi. Hein, Jardin, ces domaines de...
Maison Rouge.
Maison Rouge. Les Gigoux, maintenant. C'est le domaine de Gigoux.
Domaine Gigoux.
Voilà. Donc, c'est en bio. Puis, il y a eu tous les jeunes qui sont arrivés. Sébastien Corny.
La Roche Bleue.
La Roche Bleue.
Que des gens qu'on a rencontrés.
Oui, oui, qu'on a rencontrés.
Bizarre.
Il y a les nouveaux, les derniers nouveaux, Andrea Delval, qui lui, c'est son domaine, c'est...
Domaine de la Futaie.
Domaine de la Futaie.
Si tu veux une question sur tes voisins, Jean-Pierre, tu me demandes.
Ah ouais, domaine de la Futaie, oui, mais j'arrive jamais à m'en souvenir. Parce que moi, je dis toujours son nom. Et puis après, il y a tous les jeunes qui arrivent, Monde, et puis il y a Pierre Pradel, et puis ça bouge. Au moins, tous ces jeunes qui sont arrivés, ils ont une autre pensée que les autres. D'ailleurs, ils sont tous au bio. Ils travaillent tous les sols. Les vins sont quand même plus stylés.
Ça doit te faire plaisir de voir toute une génération qui arrive et de te sentir moins isolé, en fait, dans cette approche.
Oui. Non, mais c'est bien que ces jeunes viennent parce qu'il n'y avait absolument personne à part Gégou, moi, et puis Jardin et Eric Nicolas. Bon, mais c'est bien. Aujourd'hui, maintenant, ça bouge un peu. Il n'y a pas de domaine à vendre, il n'y a rien à vendre, c'est une petite appellation. Une petite appellation avec des grands terroirs, il ne faut pas l'oublier. Le Chenin et le Pinot de Nice, c'est des grands cépages.
Et si on allait, peut-être on a beaucoup parlé, on s'est un peu déshydraté là.
Oui.
Il y a peut-être moyen de retrouver un peu d'hydratation via quelques bouteilles qui nous attendent visiblement sur la table juste à côté.
Oui, il y a quelques bouteilles. Voilà, j'ai ouvert les bouteilles. Je vais même te faire goûter des vieilles bouteilles.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous sers, Jean-Pierre ?
Voilà, ça c'est Iris. Iris 2020. Iris 2020. 12 mois de barrique, 16 mois d'élevage. Ça c'est réserve personnelle maintenant.
Oui, il n'y en a plus à la vente.
Il y en a encore 500 bouteilles qu'on garde. Et puis c'est bien quand tu bois avec il y a 10 ans.
On se croit un peu dans le Jura quand on goûte ce vin.
Oui, parce que mes vins sont toujours oxydatifs. Moi, ça, j'adore, voilà. Tiens. Et encore, il y en a qui sont beaucoup plus oxydatifs que ça. Et le Chenin se prête bien à l'oxydatif. Les cuvées Julien Trobinon, j'ai trois pièces, j'ai encore trois fûts Julia Trobinon, la super Julia Trobinon, qui faisait 18 potentiels, prêteur en humble à 100%, qui est encore en cuve, en barrique, jamais houillé depuis 2018. Et ça fermente encore.
Et ça fermente encore ?
Ouais. Ah ben oui, comme je ne mets pas de sulfite, il y a du sucre. Donc, il faut que le taux levurier s'arrête.
Les élevages longs, pour toi, c'est la base un peu.
Ben, l'idéal, il faudrait qu'on puisse, dans l'avenir, si je peux les garder 24 mois ou 36 mois, tous les vaches, ce serait génial. Quand la nature nous le permet.
Tu es allé jusqu'à combien de temps sur des élevages comme ça ?
Maximum, c'est 7 ans. La cuvée Juliette Robinon en 2010, qui faisait 20 degrés potentiel. Mais là, j'ai ramassé 10 hectares à 22 degrés. En 2022, pour les 22 ans, à Noël, j'ai dit à Juliette, pardon. Et là, ça fait 22 potentiels. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir durer.
3 points de suspension.
Ouais. Non, mais on ne va peut-être pas... J'en sais rien. Soit ça va s'arrêter de bonne heure parce que ça fait 22 degrés, donc le taux levurier va s'épuiser. Ça va faire peut-être 10 degrés. Plus 10 degrés, 170 grammes, 220 grammes de sucre, ça va peut-être s'arrêter tout seul. Ou si ça ne s'arrête pas, ça va faire monter, mais ça fermente bien. Alors je ne sais pas si je vais les laisser ou si je vais... Tout de même, c'est assuré pour 5 ans, c'est sûr. Bon, 5 ans, ça va, moi je vais vivre jusqu'à 200 ans. 5 ans, ça va faire 81 ans, l'autre ça va faire 86 ans, l'autre ça va faire 90 ans, 95 ans, 100 ans, 110, 120, 130...
Et alors, tu nous le précisais dans ta présentation tout à l'heure, depuis 2006, zéro soufre depuis sur 2006, toutes tes cuvées.
J'ai pas mis 1 mg depuis 2006. Mais en 2002, j'ai déjà commencé sans sulfite, je fais plein de cuvées. De 2002 à 2006, sans sulfite, la cuvée Juliette Trobinon, il n'y a pas de sulfite, il y a eu plein de pièces qui n'ont pas de sulfite. En 2005, ou un truc comme ça, quand je goûtais certains vieux millésimes où je mettais 2 mg, je ne pouvais plus les boire.
À ce point, même avec...
Ah ouais, j'ai dit, ça va, c'est beau, faut que tu arrêtes tes bêtises, là. Donc, en 2006, j'ai fait 20 000 bouteilles, j'ai dit, ça pète ou ça casse, mais jamais plus rien. Et depuis, plus rien.
Est-ce que ça casse, parfois ?
Non, ça casse, oui, ça casse. Des fois, je perds une barrique, deux barriques. Là, j'ai perdu 3 barriques d'Iris 2020, parce que ça faisait 14 degrés. Évidemment, ça fait remonter lentement, ça mal fait remonter, donc... Il y a eu 2-3 barils qui sont partis en volatile et il y avait trop de volatiles, donc je les ai mis de côté. Et puis là, on les a bouchés au bout de 3 ans, mais bon, les autres se comportent bien. Non, mais des fois, il y a une barrique qui part en vrille et il n'y a pas beaucoup de vignerons qui font du vin nature qui n'a pas fait du vinaigre. Hein. Ben, c'est le jeu. Hein. Non, c'est pas le jeu, mais bon.
Le vinaigre est bon.
Ça fait du bon vinaigre, du coup.
Ça, c'est en 2005. 2016, c'est une cuvée qu'on avait bouchée pour Jacques Nozac. Ça, c'est Charme 2005. C'est une bouteille qu'on avait bouchée à la main, sans sulfite, en 2005.
Intéressant, il y a encore du gaz, il y a encore de la fraîcheur, du
2005,
punch.
Tu te rends quoi ? Ça, c'est une barrique qu'on a bouchée à la main. À la main, barrique, bouteille directement. Donc, avec du gaz. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a du gaz. Tu vois ? Ça, les rillettes avec le blanc, je peux dire que ça marche. Qu'est-ce que vous voulez boire là ?
Pour faire les millings et tout, hein, pour faire les tartines. Bon, ouais. On a bossé. Hein.
Bon, là, je vais te faire goûter parce que hier, tu as peut-être goûté ça. Là, c'est important.
Le 2003.
Non. Ça, c'est du 2010. Alors, ça, c'est la Super Juliette, la Super Cuvée Juliette 2010. La bouteille est ouverte depuis 10 ans. Hein ? 10 ans. Et il reste un verre dedans.
C'est un privilège extrême.
Oui, voilà. J'avais mis ça parce qu'il y a plusieurs bouteilles au fond de la cave. Je mets le bouchon par-dessus. Il y a plein de petits poils, il y a plein de champignons qui poussent autour. Et il y a un mois, j'ai dit, tiens, il faut que je goûte à ça. Bon, il y en avait 2-3 bouteilles. Il y avait un rouge, je le sens, vinaigrant. Et lui, hop, je nettoie, je goûte. Fantastique, extraordinaire.
Ouvert depuis 10 ans.
10 ans.
C'est une expérimentation que tu veux faire ?
Oui,
où ça peut aller ?
Ouais, je savais qu'à partir du moment où tu lèves les vins sur lit pendant des années et avec des gros potentiels qu'il faut 15, 16, 17, le vin devient peut-être immortel, comme les grands jaunes du Jura. Et là, la preuve par 10, parce que quand il reste un verre et demi ici, ouvert depuis 10 ans avec le bouchon, et quand on va le goûter ici, il n'est pas mort, il est en pleine évolution de jeunesse, comme moi.
Il le vend bien.
Goûtons.
Ah, t'en mets un tout petit peu, du coup.
Oui, bah tout de même, maintenant, on va, maintenant que je sais, je vais en ouvrir d'autres. C'est là où on comprend que le vin vivant, il a le droit des multiples interprétations. Et c'est pour ça qu'il faut s'adapter aux nouveaux arômes des vins naturels qui parfois ne peuvent ne pas te plaire. Mais c'est la vie du vin qui continue. Et il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas encore compris le vin naturel dans l'évolution, parce qu'il y a des arômes un petit peu bizarres, un petit peu différents. Mais s'il est nature et qu'il continue à vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'il n'est pas vinaigre, il faut accepter ce que le vivant t'offre.
Impressionnant, parce que, bah, évidemment, on est là sur un côté oxydatif, mais alors la bouche, elle est rectiligne, elle est pure.
Donc c'est un potentiel qui faisait, c'est la Super Juliette 2010, ça faisait 16,5 potentiel avec botrytis, mais 5 ans d'élevage.
Un cas d'école pour plein de gens qui regardent encore ce type de viticulture et de vinification avec dédain.
Oui, mais bon, ces choses-là, on ne peut pas le faire aussi, il faut avoir la vente de ces choses-là, parce que c'est des gros potentiels, donc c'est 16,5, 17, 18, donc évidemment, tu perds beaucoup de jus à l'hectare. Donc, quand tu le gardes 5 ans, 6 ans en barrique, et puis tu le gardes 5 ans, 6 ans, mais bon, quand tu le mets en barrique, il n'est pas nickel, il faudrait encore attendre un an ou deux ans avant de le vendre. Ça, c'est de 2010. Donc, maintenant, ils sont au top niveau de l'équilibre, de finesse, etc. Je vais tenter d'en faire minimum 3 barriques par an pour perpétuer les choses, parce que comme on les vend cher, mais ces vins-là, aujourd'hui, ça mérite une comment fortune, je veux dire, parce que personne le fait, c'est pas 50 euros qu'on doit le vendre, on doit le vendre cher.
T'expérimenteras toute ta vie, Jean-Pierre.
Et oui, parce que maintenant c'est beaucoup plus de temps, parce qu'effectivement, quand il y a plus de monde, quand on gagne plus d'argent, on prend plus de monde pour t'aider, parce que nous, on est à l'âge que nous avons, nous sommes d'une jeunesse perpétuelle, mais quand même.
Un jeune homme, j'ai dit tout à l'heure, un jeune homme.
Un jeune homme de 76 ans, avec mon épouse qui a 76 ans aussi. Heureusement qu'on est encore de ce monde, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà, qui nous ont quittés depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il faut garder sa forme, il faut continuer, tu vois.
Le vin nature, ça conserve. Le vin nature, ça conserve. On fait tous nos légumes, tous nos jardins et tout. Nous, on mange que bio depuis qu'on est né, enfin, quasiment. Donc, forcément, ça conserve.
Eh ben, on va vous souhaiter plein de nouvelles expérimentations dans le futur. Puis, ben, il faudra qu'on revienne pour goûter d'autres bouteilles ouvertes. Ben, là, peut-être pas 10 ans, mais 15 ou 18 ou 20.
Ah, mais moi, attendez, non, mais moi, j'ai goûté le plus beau vin de Jeannère qu'on a goûté, 1740, 18e siècle. Ouais, 1800. Et c'est des bouteilles qui sont ouvertes depuis 6 mois. Le vin a une fraîcheur de folie. C'est des grands terroirs. Le vin, il est tenu par le minéral, par le terroir. C'est pour ça qu'il y a des vins qui ne tiennent pas dans le temps, parce qu'il n'est pas nourri. Tu ne vas pas demander à un nouveau-né de battre un record du monde.
Il n'en aurait pas les moyens.
Voilà. Donc, le vin, tu veux lui demander tout de suite un record. Non. Le vin, il faut le nourrir. Il faut l'élever. Donc, c'est pour ça que plus les vins sont élevés, plus les vins tiennent dans le temps, même dans le vin nature. La preuve, c'est 10 ans d'ouverture, le vin, il est splendide.
Merci Jean-Pierre.
Merci à vous, merci de transmettre cette vibration vivante à travers le vin nature.
Domaine Les Vignes de Langevin, Jean-Pierre Robineau, Retour aux sources. C'était un podcast de Fabrice Tessier, mixage Nolwenn Moquet. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.